Le journal Claire Vigier.
Bonsoir. L'overdose fatale d'une jeune fille n'est pas le résultat d'un meurtre. Le tribunal criminel de Neuchâtel a rendu son jugement aujourd'hui dans l'affaire d'une mineure droguée et abusée par un homme de 44 ans au moment des faits. Depuis 100 ans, les banques actives dans le canton de Neuchâtel sont regroupées au sein d'une institution, un organe qui leur permet de mener des projets ensemble, notamment pour promouvoir la formation. Des grands noms de l'athlétisme à La Chaux-de-Fonds, le 42e Résisprint se tient dimanche à La Charrière. À seulement 2 semaines des mondiaux d'athlétisme, les athlètes seront au top de leur forme. Et puis, il devrait y avoir de fréquentes averses en seconde partie de nuit. La pluie devrait encore être présente par place en matinée, mais le soleil s'imposera au fil des heures. Le mercure ne dépassera pas 21 degrés au meilleur de la journée demain. Le prévenu dans l'affaire de l'overdose fatale échappe à la condamnation pour meurtre. Le tribunal criminel de Neuchâtel a rendu cet après-midi son jugement. Un homme de 46 ans a comparu devant la justice en mai concernant le décès à son domicile d'une jeune fille âgée entre 12 et 14 ans au moment des faits. À cette époque, l'accusé avait régulièrement des relations sexuelles avec la victime. Lors d'une soirée de septembre 2020, il lui a donné de la drogue qui a provoqué son décès par overdose. Et contrairement à ce que réclamait l'avocate de la mère de la jeune fille, l'homicide n'a pas été retenu. Audrey Mondy, vous avez assisté à la lecture du jugement cet après-midi.
Oui, Claire, et c'était la question qui était sur toutes les lèvres pendant le procès. Le prévenu s'est-il rendu coupable d'homicide ou était-ce un homicide par négligence, comme le souhaitait la défense ? La justice a tranché et c'est finalement l'homicide par négligence qui a été retenu. Pour rappel, le jour du drame, la jeune femme avait souffert d'une lente agonie causée par l'ingestion de méthadone en quantité importante. Le prévenu avait constaté à plusieurs reprises qu'elle respirait mal sans contacter les secours. Au contraire, il avait même filmé ses parties intimes alors qu'elle demeurait inconsciente. Mais le jury a estimé qu'au moment où l'homme a commis l'acte fatal, c'est-à-dire lorsqu'il a donné à sa victime de la méthadone, il n'était pas suffisamment conscient que ce geste pourrait entraîner la mort.
Mais Aude, l'homme a tout de même été condamné.
Oui, Claire, outre l'homicide par négligence, la justice a retenu différents chefs d'accusation, dont des actes d'ordre sexuel avec mineurs, l'omission de porter secours, la remise de substances illicites à des enfants pouvant mettre en danger leur santé, la pornographie et l'infraction à la loi sur les stupéfiants. La peine est notamment calculée en fonction de l'acte d'ordre sexuel avec mineur qui est l'infraction la plus grave au sens de la loi. Il écope donc de 7 ans et demi de prison, suspendu au profit d'une mesure de traitement institutionnel en milieu fermé. Il devra aussi, outre les frais de justice, verser à la mère de la victime 50 000 francs pour tort moral.
Aude, vous l'avez dit, cette peine signifie donc qu'il devra suivre une thérapie.
Oui, Claire, le prévenu a été diagnostiqué pédophile par les psychiatres. Pour l'heure, ces experts jugent très probable le risque qu'il recommence à entretenir des relations sexuelles avec des mineurs. Sa dangerosité sera donc réévaluée tous les 5 ans, ce qui signifie qu'en fonction des conclusions des médecins, il pourrait, en théorie, rester en milieu fermé plus longtemps que les 7 ans et demi fixés par la peine.
Merci Aude pour ces précisions et notons encore que les parties ont 10 jours pour faire appel. Les sites de munitions immergés comme à Forel dans le lac de Neuchâtel font peser un risque financier de réputation sur la Confédération. C'est ce qui ressort d'un rapport du contrôle fédéral des finances sur l'assainissement de ces sites. Le gendarme de l'administration fédérale appelle le département de la défense à agir en toute transparence. Il relève notamment que les analyses pour voir si le site de Forel était pollué n'ont pas été faites conformément à l'ordonnance sur les sites pollués. Il faut donc en réaliser de nouvelles. La conclusion de l'audit va donc dans le sens d'un texte du socialiste neuchâtelois Baptiste Turny adopté en mars par le Conseil national.
J'avais déposé un postulat sur l'ensemble des sites pollués par l'armée, donc pas uniquement le site de Forel, mais évidemment c'était le site qui m'intéressait le plus. Et puis la réponse à ce postulat a été que le département de la Défense entre en matière pour proposer deux choses, finalement des analyses conformes à l'ordonnance sur les sites, et puis d'autre part d'avoir un peu un agenda sur ces dépollutions, parce que c'est un autre élément que pointe cet audit. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de très nombreux sites qui ont été pollués, mais on a absolument aucun agenda, aucun délai pour savoir comment est-ce qu'ils vont être dépollués, parce qu'il faut bien les dépolluer. Et le département de la Défense, encore une fois, ne semble pas opposé à cette démarche. Après, comme toujours, elle prend un peu trop de temps à mon goût, mais je dirais que l'essentiel, c'est que les différents acteurs vont dans le même sens, et c'est effectivement aussi assez important de voir que le contrôle fédéral des finances pointe finalement les mêmes manquements que nous l'avions fait il y a quelques mois, et c'est une autorité très officielle. Donc je crois que les choses vont dans le bon sens. France, malheureusement, elles prennent un peu trop de temps.
Oui, le département fédéral de la Défense va dans ce sens. Il va mener des investigations supplémentaires. L'enquête sera réalisée par un bureau spécialisé indépendant. L'association cantonale des banques neuchâteloises place son 100e anniversaire sous le thème de la jeunesse. Les représentants de cette institution, qui se profile désormais sous l'appellation Place financière neuchâteloise, ont présenté le programme ce matin. Au menu, un concours de travaux de recherche sur des thèmes bancaires réservés aux étudiants de l'Université de Neuchâtel et de la Haute École Arc. L'association propose également un site web largement consacré à la formation dans le secteur, un parcours interactif à la découverte des banques via l'application Totemi, ainsi qu'une participation au Festival des sports de Neuchâtel les 20 et 21 août. Reste qu'une association constituée d'établissements concurrents, cela ne va pas de soi. Le président de la place financière neuchâteloise, Mirko Mandola.
C'est vrai que ça paraît bizarre de penser à une association de banques qui sont concurrentes au quotidien. En fait, premièrement, ça permet de mieux se connaître entre acteurs et je pense que cette proximité, elle est bénéfique. Et puis surtout, ça nous permet aussi, au travers de cette association, d'un peu sauvegarder et promouvoir, je dirais, les intérêts communs du secteur bancaire dans le canton de Neuchâtel. Et puis sur certains projets, je pense qu'on a effectivement des intérêts communs, comme c'est le cas dans le cadre de cet anniversaire où on souhaite vraiment promouvoir la relève dans le secteur bancaire. Vous savez, la banque, c'est une affaire de personnes, people business, donc c'est important qu'on puisse avoir une relève de qualité et compétente.
Dernier point d'orgue de ce 100e anniversaire, la traditionnelle journée des banquiers, événement phare de la finance suisse. Il se tiendra le 15 septembre à Neuchâtel. Une nouvelle recrue sur le banc pour Prosenec Toutéarc Jurassien. L'organisation de soutien aux seniors peut désormais compter sur Bernard Chalande comme nouvel ambassadeur. Cette figure neuchâteloise du football suisse et international entend contribuer à montrer une image dynamique du troisième âge. Pour cette année, Prosenec Touté propose pas moins de 500 activités dans tout l'arc jurassien. Vous retrouverez un programme en lien sur rtn.ch. 15 chefs de gouvernement seront présents à Lugano en début de semaine prochaine pour le sommet international sur l'Ukraine. C'est le Premier ministre ukrainien Denis Shmigal qui fera le déplacement. Une quinzaine de ministres des Affaires étrangères seront aussi présents, tout comme 6 organisations internationales. C'est ce qu'a communiqué aujourd'hui le DFAE face à certaines critiques sur le bien fondé de la tenue de ce sommet alors que l'Ukraine est partiellement envahie par la Russie. L'ambassadeur suisse Simon Pidoux met en avant les points forts de l'événement.
Je crois que simplement le fait d'être les premiers à pouvoir offrir cette première conférence est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Là où l'Union européenne a juste annoncé qu'ils veulent faire quelque chose cet automne, le G7, la même chose, nous pouvons nous dire, nous le faisons. Le fait de pouvoir réunir ensemble tout le monde permet de donner une perspective aux Ukrainiens, permet de jeter les bases avec le comment on veut faire cette reconstruction. Et pour moi, c'est ça le plus important.
Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliards qui sont en jeu. On sait que l'Ukraine a un problème endémique, c'est la corruption. Quelles sont vos conditions par rapport à ce problème-là ?
Dans la déclaration de Lugano, un des principes sur ce processus de reconstruction devra être justement lié avec le processus de réforme. Et là, tout le monde, y compris l'Ukraine, est d'accord. Donc, utilisons cette catastrophe pour transformer le pays, pour accélérer les réformes en cours.
Simon Pidou qui répondait à notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami. La conférence sur la reconstruction de l'Ukraine se tiendra lundi et mardi au Tessin en présence du président de la Confédération, Ignacio Cassis. Nous resterons aux côtés de l'Ukraine et toute l'Alliance restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour s'assurer qu'elle ne soit pas battue par la Russie. Ce sont les mots de Joe Biden en conclusion du sommet de l'OTAN à Madrid. Le président américain a encore annoncé que son pays allait livrer à Kiev une nouvelle aide militaire représentant plus de 800 millions de dollars en défense anti-aérienne, artillerie et autres équipements. Aux États-Unis, la très conservatrice Cour suprême a limité aujourd'hui les moyens de l'État fédéral de lutter contre les gaz à effet de serre. Ces 6 juges conservateurs ont estimé, contre l'avis de leurs 3 collègues progressistes, que l'Agence pour la protection de l'environnement ne pouvait pas édicter de règles générales pour réguler les émissions des centrales à charbon qui produisent près de 20% d'électricité aux États-Unis. Une décision qui pourrait avoir un lourd impact sur le réchauffement climatique. pas d'accord à Genève pour l'organisation des élections générales en Libye. Le dialogue entre les chefs des parlements rivaux n'a pas réussi à lever les divergences. Le blocage subsiste sur les conditions pour se porter candidat à la présidentielle. Et puis le Conseil fédéral a entamé aujourd'hui son excursion annuelle en se rendant aux chutes du Rhin. Après un apéritif avec la population à Schaffhouse, le gouvernement a poursuivi son voyage au Tessin où aura lieu la seconde journée de sa course d'école. Ce sera évidemment demain.
Martin, il est 18h10.
Sport. Le Resi Sprint fait toujours le plein. La 42e édition de la compétition d'athlétisme se tient dimanche au stade de la Charrière à La Chaux-de-Fonds. Plusieurs athlètes de renommée mondiale vont mesurer leur état de forme à seulement 2 semaines des championnats du monde d'Eugene aux États-Unis. Parmi les têtes d'affiche de cette édition, on retrouve le champion olympique italien du 4x100 mètres Filippo Tortu ou encore la championne du monde néerlandaise du 200 mètres Daphne Schippers. La compétition sera en outre extrêmement relevée, comme l'indique le responsable du plateau des athlètes, Olivier Glore.
Ce n'est pas un meeting qui se limite à 8 athlètes au 100 mètres, 6 athlètes au 200 mètres, donc ça reste l'athlétisme au centre du meeting. Donc on a 10 séries de 100 mètres, on aura 8 hommes au 100 mètres. Si on prend simplement les 5 meilleurs, ils ont tous couru cette année au moins de 10-10. Donc la forme de ces athlètes, plus les conditions, plus le placement dans la saison qui est quand même proche du pic de performance, peut donner des étincelles et puis peut donner vraiment un spectacle assez intéressant.
Parce que là, ils ne vont pas vraiment se tester pour ne pas se blesser, c'est vraiment regarder jusqu'où ils peuvent aller avant ces fameux mondiaux. Hein.
Ouais, c'est vraiment se placer, trouver les derniers réglages, mais surtout faire acte aussi pour les autres concurrents de leur forme. Et puis les athlètes arrivent en forme, donc arrivent vraiment à leur pic. On n'est plus dans la phase de préparation, là, on est vraiment là, dans la phase de compétition.
Des propos recueillis par Yann Esler et vous trouverez plus d'informations sur ce 42e Resisprint sur rtn.ch. Et puis encore cette information, il n'y a plus de Suisse à Wimbledon. Victoria Golubic, la dernière rescapée du clan helvétique au tournoi londonien de tennis, s'est inclinée face à Barbora Krejcikova. La Tchèque s'est imposée 6-3, 6-4. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'info, ça sera tout à l'heure à 18h30. Très bonne soirée à tous.